Ce programme vous est proposé en partenariat avec l'ambassade des États-Unis.
Les grands débats.
Radio de la paix.
Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Démocratie en progrès. Pour ce numéro, nous avons décidé d'interroger des experts sur la problématique de la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Le thème de notre débat aujourd'hui est la jeunesse, proie facile pour l'extrémisme, que faire ? Pour échanger sur ce thème, nous recevons le général Diokoyi Léon, président de la Comnat ALPC, entendez la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et des armes de petit calibre. Nous recevons Monsieur Nkoué Herman du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Nous recevons Monsieur Arthur Banga, il est enseignant-chercheur au département d'histoire de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Nous recevons Monsieur Jean-Paul Zounon, expert en stratégie de sécurité et de défense. Nous recevons également le colonel-major à la retraite Wassena Hubert, membre de l'ONG la CADA, la Coordination africaine des droits de l'homme pour les armées. Également présent avec nous, le colonel à la retraite Dokani, membre de la CADA. Monsieur Victorien Ntaye, président du RASALAO, le réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest. À ce micro, Ben Diakité, technique Antoine Kouassi. Merci d'être à ce rendez-vous.
Radio de la paix. Se parler. S'écouter. Se comprendre.
Bonjour messieurs et merci d'avoir répondu à notre invitation. Le nord de la Côte d'Ivoire a été bien souvent le théâtre de violences ces dernières années. Quelle est aujourd'hui en 2023 la situation sécuritaire dans cette partie du pays? Je vais commencer avec vous, monsieur Arthur Banga. Quelle est aujourd'hui la situation en termes de sécurité des biens et des personnes dans le nord du pays?
Je pense qu'on est dans une situation plutôt stable. J'ai envie de dire une vigilance orange parce que comparé aux années 2020-2021, on a eu une succession d'attaques, notamment dans Kafolo, Teini aujourd'hui. On a l'impression que les mesures qui ont été prises d'un point de vue opérationnel, création des zones opérationnelles nord, investissement public commencent à payer. Néanmoins, on est dans un environnement qui doit nous emmener à conserver la vigilance avec nos voisins qui sont plutôt dans des états qui sont en situation de déliquescence, une arrivée massive de réfugiés et puis encore des difficultés pour les populations. Donc on a une situation plutôt stable, mais qui doit nous maintenir dans la vigilance parce que nous sommes encore dans l'œil du cyclone des groupes terroristes et il y a une situation, je vis, internationale qui peut être favorable à leur expansion.
Monsieur Victorien Taye, président donc du RASALAO, vous qui faites des missions dans le nord du pays, aujourd'hui, quel est le moral des populations dans le nord du pays?
Encore une fois, merci de nous avoir associés à ces échanges. Pour nous qui sommes de la société civile, nous voyons un peu nos communautés qui sont vraiment dans la peur. C'est vrai qu'en 2020, ils s'étaient plus affolés, mais avec les actions multipliées de l'État, il continue d'être affolé, mais c'est encore mieux par rapport à 2020. Il y a une nette amélioration parce que les attaques sont pas répétées. C'est beaucoup déjoué aujourd'hui parce qu'il y a une collaboration. Donc pour nous, la population vit toujours dans la psychose parce qu'ils ont besoin d'un retour de la sécurité normale pour qu'ils puissent vaquer correctement à leurs différentes occupations.
Monsieur Jean-Paul Zounon, expert en stratégie et sécurité de défense, cette situation d'accalmie en termes de stratégie, comment on peut l'interpréter? Est-ce que ça veut dire que ceux qui menaient ces attaques aujourd'hui sont sous contrôle? Ou bien ça veut dire qu'il y a une réponse, comment vous allez dire, musclée, une réponse plus forte qui a été apportée aux menaces? Comment devons-nous interpréter cette situation d'accalmie?
Bonjour, merci. Cette situation d'accalmie, comment on doit l'interpréter? Déjà, j'aurais apprécié qu'on ne circonscrive pas le problème, la problématique elle-même, à la seule Côte d'Ivoire, parce que la notion de frontière, ça n'a pas trop de sens quand on parle de ce genre de problématique. Qu'on ne circonscrive pas la problématique à la seule Côte d'Ivoire. Et cette situation d'accalmie au nord, moi, je ne la vois pas, la situation d'accalmie. Il y a eu des mesures qui sont prises, il y a la présence de l'État, il y a eu la zone opérationnelle nord. Je vois seulement les effets des conflits des pays plus au nord de la Côte d'Ivoire pour l'instant.
Colonel-major Wassena Hubert, vous, dans le cadre donc de vos activités de la société civile, notamment donc avec votre ONG, la Coordination africaine pour les droits de l'homme des armées, vous avez sillonné cette partie de la Côte d'Ivoire, vous revenez du nord de la Côte d'Ivoire. Quand vous parcourez cette zone de la Côte d'Ivoire, quelle est l'ambiance générale? Qu'est-ce que vous constatez?
Merci de nous avoir associés à cette émission. Effectivement, nous avons parcouru certaines régions du nord de la Côte d'Ivoire, la région de la Bagoué, la région du Tchologo, la région du Poro et la région du Bokani. Et durant notre présence dans cette région, nous avons essayé de sensibiliser les leaders communautaires, les forces de défense et de sécurité, les guides religieux, la jeunesse, les associations de femmes à la lutte et à la prévention contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Donc, durant ce séjour, nous avons dispensé quelques modules. Le premier, ça a été la législation sur le terrorisme. Le deuxième, les généralités sur les droits de l'homme. Le troisième module, c'était la prévention et la lutte contre la radicalisation et le terrorisme. Et le quatrième module, c'était une sensibilisation sur les armes à feu. Nous avons surtout insisté sur la législation et la sensibilisation sur les armes à feu parce que, comme vous le savez, nous avons déjà eu des attaques aux engins explosifs improvisés dans le nord de la Côte d'Ivoire. Donc, il fallait que les populations sachent à peu près ce que c'est. En dehors de ça, elles nous donnent l'impression qu'elles sont satisfaites parce que la collaboration entre les forces de défense et de sécurité, ça s'améliore de plus en plus et elles sont aptes aujourd'hui à collaborer avec nos forces de défense et de sécurité.
D'accord. Colonel Dokani, sur la même préoccupation, on va rebondir sur ce que vient de dire le colonel-major Wassena Hubert, notamment sur la nature de la collaboration entre l'armée et les populations. Comment, généralement, cette collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les populations, comment ça se manifeste sur le terrain? Parce que très souvent, quand on arrive dans des régions, on voit les militaires dans des camps. Est-ce qu'il y a une collaboration? Si oui, cette collaboration, comment elle se présente?
Merci de m'avoir passé la parole. Mm-hmm. Comme l'a si bien dit le colonel-major Wassena, la CADA a effectué une mission au nord de la Côte d'Ivoire le mois dernier. Mm-hmm. Et apparemment, quand on arrive, vous avez l'impression que tout va bien, mm-hmm. tout se passe bien, vraiment, il n'y a pas de problème. Mais c'est seulement l'afflux des réfugiés au nord actuellement qui fait croire qu'il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, par rapport à la collaboration entre les forces de défense et la population, elle se passe très bien. Mais seulement, chaque entité fait des reproches à l'autre. Ainsi de dire, par exemple, les reproches des populations aux forces de défense et de sécurité. Dans un premier temps, les populations reprochent aux forces de l'ordre le manque de professionnalisme. Qu'est-ce à dire? Ben, par exemple, quand ils se plaignent, par exemple, quand ils font porter une plainte, au lieu, soit ils ont pris un voleur de moto ou quelque part, au lieu que les éléments de FDS aillent sur le terrain pour appréhender le voleur, mais soit ils leur demandent, eux, de ramener le voleur, ce qui est un peu difficile pour les populations. Et comme toujours, hein, ils reprochent au FDS les histoires de raquettes, de tracasseries et autres. À part ça, le FDS aussi reproche aux populations, disons, de ne pas partager l'information, de ne pas collaborer. Or, vous savez, dans ce genre de situation, l'armée ou bien les personnes des forces de défense, pour réussir leur mission, il y a trois dimensions. La première, c'est la performance du personnel. La deuxième, c'est la performance de l'armement du matériel qu'ils utilisent. Et la troisième dimension, la plus importante, c'est la collaboration. Parce que pour mieux vous protéger et vous aider, mais il faut collaborer. Donc, l'FDR reproche aux populations de ne pas collaborer. Et ça, vraiment, c'est un handicap dans la réussite de leur mission. Également aussi, ils reprochent aux populations la méconnaissance des lois. Imaginez, par exemple, les gens conduisent des véhicules, des motos, sans permis de conduire, sans les pièces de véhicule. Et ça, c'est un problème réel au Nord. L'autre élément, c'est l'incivisme des populations, non-respect des lois et aussi l'indiscipline. Voilà un peu, quand même, les différents reproches que chaque entité fait de part et d'autre.
Mon général Djokoui, avec vous, vous êtes président de la COMNAT, là, hein, la Commission nationale, donc, pour la lutte contre la circulation des armes légères ou les armes de petit calibre. Est-ce que vous, dans vos actions par rapport à cette partie du pays qui est aujourd'hui à regarder à la loupe, où il y a une intervention massive et une présence de l'État, des forces de défense et de sécurité également, des investissements, vous, dans le cadre de votre travail, qu'est-ce que vous faites dans cette partie du pays concrètement? À quoi consiste votre travail sur le terrain là-bas? Qu'est-ce que fait la Comnat au nord du pays?
Merci beaucoup. Qu'est-ce que fait la Comnat LPC au nord du pays? Mais c'est déjà de jouer son rôle. Son rôle qui est de sensibiliser les populations contre la détention illégale des armes en général, armes de jet de petit calibre. C'est aussi d'attirer l'attention de la population sur ce que peut créer la radicalisation suivie du terrorisme et de leur expliquer le lien étroit entre armes légères de petit calibre et le terrorisme. Et donc, nous le faisons par des missions de sensibilisation faites directement par nous-mêmes, mais par aussi le biais des commissions déconcentrées qui sont dirigées par les autorités préfectorales. Par moment, nous les faisons descendre là pour leur donner toutes les capacités pour pouvoir véhiculer notre message. Et donc, déjà très longtemps, dès les premières heures, nous avions commencé cette sensibilisation. C'est vrai, elle porte quand même ses fruits, même si elle est encore perfectible. Une chose est sûre, c'est qu'on sent une amélioration dans la prédisposition des populations à jouer leur rôle et leur partition dans le renseignement humain qui est important à la matière. Voilà ce que je peux en dire dans un premier temps.
Mais aujourd'hui, quelle est la situation en ce qui concerne donc les armes, hein, on va dire les armes légères dans la zone? C'est vrai qu'on n'a pas forcément toutes les données, mais comme vous êtes là, c'est vraiment une aubaine pour nous de nous dire aujourd'hui quelle est la réalité. Est-ce que c'est visible?
Ce qui est réel, ce qui est sûr, ce qui est perceptible, c'est que déjà nous sommes loin de 2011 où vous aviez dans les rues, partout, les gens déambulaient avec des armes étaient portées de façon très visible sans qu'on les cache. Le désarmement est passé par là, les collectes d'armes passent par là, la sensibilisation passe par là. Et aujourd'hui, il y a une nette amélioration de cette perception de non-prolifération d'armes et de non-circulation illicite d'armes. Mais la réalité, c'est que les armes dont nous parlons ici, ça, il s'agit des armes déjà de petit calibre, mais notamment des armes de petit calibre. Vous savez, elles sont très, très, très mobiles. Elles sont caractérisées par leur mobilité extrême, par leur facilité de dissimulation. Donc, vous pouvez aujourd'hui être dans une situation où vous dites, il y a un confort relatif par rapport à cette circulation illicite parce qu'il y a peut-être 10 armes, 15 armes qui circulent et puis demain, ça peut être 50 parce que entre-temps, elles sont venues des pays qui sont frontaliers, qui sont dans le nord. Et n'oublions pas qu'en dehors de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec la dislocation de notre système de gestion des armes, on a fini par maîtriser, il y a 20 millions d'armes légères de petit calibre qui sont sorties des stocks légaux de la Libye. Et là, elles sont en perpétuel mouvement. Aujourd'hui, vous pouvez collecter 50, 200, et puis bon, la situation est meilleure. Et demain, elles descendent du Mali voisin, du Burkina voisin. Et puis bon, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une nette amélioration. Ça, ce n'est pas discutable. Comment on le perçoit? Parce que nous avons notre observatoire de la violence armée qui nous renseigne sur la manifestation de ces armes. Et puis, nous avons également les collectes, le désarmement communautaire qu'on fait. Et je vous donne un exemple, mais on n'a même pas besoin d'aller au nord pour donner cet exemple. La première opération de collecte d'armes que nous faisons en 2011 à Tekoubé, nous récoltons plus de 300 Kalachnikov. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à collecter 300 Kalachnikov dans l'ensemble du pays. Malgré tous les efforts, tout ce que nous avons comme élément d'incitation au dépôt volontaire, ça ne vient pas. Ça ne vient pas parce qu'il y en a moins.
Ça ne vient pas aussi parce que les gens ont dissimulé.
Non, de toute façon, tout ce que nous prenons, c'était déjà dissimulé. Mais il y a des langages forts qu'on a envers eux. Nous avons une approche qui nous permet de booster la collecte. Et nous avons pénétré le milieu par nos systèmes de renseignement. Et donc, on sait quand elles existent, on sait quand elles n'existent pas. Vous croyez qu'on ne se lève pas comme ça pour aller faire une collecte chez moi à Katiola? Simplement, on se lève, on y va parce qu'on sait qu'il y a des intentions de dépôt.
Colin Major Hubert, sur cette problématique aujourd'hui de la circulation des armes,
de la sécurité des biens et des personnes.
Le général a pratiquement tout dit, mais il ne faut pas oublier que dans le Nord, nous avons une tradition de chasseurs qui fait que tous les cultivateurs, tous les paysans dans le Nord ont obligatoirement leur calibre 12. Donc ça aussi, quand on observe, on voit beaucoup de personnes qui vont au champ avec leur calibre 12, c'est aussi une arme légère, mais il faut comprendre que dans la tradition, ils sont cultivateurs et chasseurs en même temps. On a la confrérie des chasseurs d'ozo. Donc ça, ça fait partie aussi de notre culture qui fait qu'à ce niveau-là, on aura aussi quelques armes.
D'accord. Alors sur cette question, c'est vrai que ça reste une arme, ça reste dangereux, parce que quand c'est entre les mains des civils, c'est encore dangereux. Est-ce qu'au niveau de la COMNAT, quelle est la stratégie pour tracer, pour contrôler? Voilà, parce que parfois c'est inquiète, parce que ça fait des dégâts aussi.
Oui, on ne peut pas venir à une telle émission sans s'attendre à répondre à une question sur la possession des armes par les dozos. Donc, croyez-moi, mais enfin, je veux dire, c'est un problème, mais il faut déjà le regarder sous l'angle culturel pour ne pas quand même froisser notre culture. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que même si c'est la culture, c'est une détention très souvent illégal, puisque la loi dit que pour avoir une arme, il faut avoir un permis de port d'arme. Alors, ce que nous pouvons voir, ce que nous pouvons remarquer, c'est que le port d'arme, dans ces conditions, est interdit. Mais la réalité, c'est que le port d'arme, dans ces conditions, existe. Bien, voilà. Donc, il faut remonter à la convention de la CEDEAO sur les armes de jet de petit calibre, leurs munitions et autres matériels connexes, pour voir, pour trouver la solution. Cette convention prescrit aux États de plutôt légaliser déjà la production artisanale, parce que les armes qu'ils ont, ce sont des armes de production artisanale. Donc légaliser la production artisanale, recenser tous les fabricants de ces armes et puis enrichir ces armes. Enrichir ces armes. Quand nous parlons d'enregistrement, c'est l'enregistrement physique sur documents, mais l'enregistrement électronique et même l'enregistrement balistique. Et donc, c'est la solution que nous proposons qui va certainement être mise en œuvre dans les mois à venir. Parce que quand il y a un enregistrement balistique, le port d'armes ne devient même plus dangereux. Parce que dès lors que vous savez que pourvu qu'une munition parte de votre arme, à partir de l'étude de l'impact, on saura de qui cette arme est venue, vous faites plus attention. Maintenant, par rapport aux dozos, nous pénétrons leur milieu. Nous les sensibilisons, nous sommes avec eux, nous attirons leur attention sur l'importance de respecter les conditions d'utilisation de ces armes, ne pas les utiliser n'importe comment, c'est là l'essentiel du problème. Et nous avons commencé un préenregistrement de ceux qui ont ces armes, de sorte que lorsque le projet de loi sera transformé en loi, nous puissions vraiment mettre en œuvre cette politique d'enregistrement et des détenteurs et des armes, etc.
D'accord, merci beaucoup, mon général. Nous allons donner le micro à présent à Monsieur Herman Nukwe, donc du ministère de la Jeunesse. Monsieur Nukwe, vos actions dans le nord de la Côte d'Ivoire, c'est beaucoup de milliards. Donc, ça fait 20 milliards en moins de 3 ans. Donc, on va dire que les jeunes du nord du pays sont suffisamment gâtés. Est-ce que ça a impacté sur leur vie, sur leur insertion professionnelle? Est-ce qu'il y a des résultats avec ces investissements? Et pourquoi vous faites autant d'investissements pour les jeunes?
Très bien, merci beaucoup. Je voudrais vous remercier donc de nous associer à cette tribune. Et vous savez que après les premières attaques qui ont été constatées, et je crois que le parterre d'experts ici l'a bien indiqué, il y a eu des mesures sur le plan sécuritaire, du renforcement du renseignement, au niveau infrastructurel, parce qu'il faut comprendre que le terrorisme surfe sur des vulnérabilités, sur des fragilités, mais à la base, vous allez trouver qu'il y a une paupérisation des populations, c'est-à-dire la précarité, le manque d'infrastructures, les injustices ressenties par certaines populations qui se sentent délaissées par le développement. Et si vous vous souvenez bien, en 2022, l'axe 1 du programme social du gouvernement, dans son édition 2, est intitulé « Lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord ». Et ce axe-là, il a été justement mis en place avec un budget de 265 milliards pour pouvoir adresser donc des solutions qui viennent compléter les mesures sécuritaires. Il s'agit donc, entre autres, de renforcer la résilience socio-économique des populations en leur offrant donc des opportunités d'insertion et d'emploi. Mais pas que. Il y a aussi l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau, la construction d'établissements. Il y a les filets sociaux qui ont couvert ces zones avec des montants très importants pour pouvoir toucher des populations qui ont un très très bas niveau de revenus. Pour revenir spécifiquement donc sur le volet insertion professionnelle et emploi des jeunes dans ces régions, sur la période 2022 à 2024, c'est 65 000 bénéficiaires. Je dis bénéficiaires parce qu'il n'y a pas que des jeunes. Il y a des jeunes, mais il y a aussi des personnes qui ont dépassé l'âge de la jeunesse, mais qui sont prises en compte par nos programmes. Pour un budget de 33 milliards. La première édition, donc 2022, on avait un objectif de 22 912 bénéficiaires à toucher sur différents programmes. Ces programmes sont des programmes de financement de projets, financement d'activités génératrices de revenus, de micro et petites entreprises. Ce sont des financements qui vont de, je vais dire, de 100 000 francs à 5 millions de francs CFA. On a aussi les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Vous avez pu le voir voilà, lors des remises de chèques. Il s'agit d'aider des populations durant 6 mois à entretenir leur environnement à travers des activités qu'elles mènent. Et là, il y a un accompagnement qui est fait par le gouvernement, donc 35 000 francs CFA par mois. Et après, un accompagnement post-TIMO. Il y a des formations. Tout à l'heure, le colonel a abordé un point qui est très important, la question des tracasseries. Mais vous voyez, le jeune homme, et c'est très courant dans la zone, hein. Il roule sa moto, son tricycle, mais il n'a pas de permis. Quand il doit quitter Tougbo pour se rendre à Bouna, il va passer différents barrages. Mais si malheureusement, bon, bien entendu, s'il arrive à passer, c'est qu'il a rempli certaines conditions. Mais quand il va retourner dans sa zone, ce jeune homme se dira, ben écoutez, moi je ne sortirai plus. Mais une telle personne, quand quelqu'un vient lui tenir un discours, ben tu vois, ceux-là, ils sont pas ceci, cela, ça peut donc susciter des envies. Voici pourquoi notre programme, justement, a un volet formation des jeunes à l'obtention du permis de conduire. Et l'année dernière, c'est 1505 bénéficiaires qui ont bénéficié donc gratuitement de la formation à l'obtention du permis de conduire. Ça règle non seulement un problème d'emploi pour ceux qui vont se mettre à leur propre compte ou bien travailler dans les mines environnantes, mais ça règle aussi une question de sécurité et de justice pour ces jeunes-là. Donc, il y a aussi le volontariat. Tantôt, vous avez parlé de l'arrivée massive, par exemple, des réfugiés. On a un programme de volontariat communautaire où des jeunes sont formés au volontariat pour accompagner ces populations. Vous avez également parlé d'incivisme. Oui, donc, puisque notre ministère traite également de la question du civisme et de la citoyenneté, aujourd'hui, on a un vaste programme de formation qui aide donc ces jeunes en les sensibilisant, les formant sur le civisme et la citoyenneté. On a aussi un dernier dispositif qu'on a mis en œuvre, ce sont les subventions aux acteurs du secteur informel. Vous voyez, la personne, c'était par exemple, je vais dire, c'était un éleveur. Sauf qu'aujourd'hui, il ne peut plus se rendre dans sa ferme, dans sa parcelle, parce qu'ils ont peur. Vous prenez le cas de Kafolo. Ceux qui connaissent bien Kafolo vont voir. Savaient qu'il y avait un ranch à Kafolo hein, qui était tenu. Voilà. Mais aujourd'hui, tous ceux qui se ranchent, il est totalement abandonné, puisque le taux de visite touristique a fortement diminué. Mais c'est autant d'activités qui sont abandonnées. Donc, on a un programme qui permet d'accorder des subventions aux acteurs du secteur informel de ces zones afin donc, de relancer leur activité, de se remettre donc, dans le tissu économique. Ce programme donc est destiné non seulement à apporter une solution en termes de formation, de financement, injecter des ressources, mais surtout développer donc une dynamique économique sur la base donc de la cohésion sociale. Et le dispositif qu'on emploie pour ça, ce sont les associations villageoises d'épargne et de crédit. L'année dernière, c'est 6 000 hein, bénéficiaires, donc 1 000 par région, issus de 240 villages qui sont aujourd'hui constitués en associations villageoise d'épargne et de crédit. Donc, je rappelle, c'est 22 912 bénéficiaires pour un budget de 9,6 milliards. Et pour 2023, nous avons 30 632 bénéficiaires qui seront pris en charge pour 12,3 milliards. Mais ce n'est pas mis en œuvre seulement par le ministère. C'est dans un cadre très coopératif avec le système des Nations Unies, avec les principaux bailleurs de fonds, la Banque mondiale, l'AFD, etc., qui apportent également leur contribution. Et là où je voudrais, si vous permettez, achever cette partie de mon propos, c'est que dans la construction de ce dispositif, nous nous sommes appuyés sur les autorités locales. Nous avons donc des équipes projets à l'échelle régionale qui sont présidées par le préfet de région avec à l'intérieur toutes les entités hein, qui suivent le plan économique local, donc le conseil régional, les mairies, les services techniques des ministères, les représentants du chef de canton, les représentants des jeunes. C'est tout cela à l'échelle régionale qui mettent en œuvre le projet. À l'échelle départementale, nous avons également des équipes projet départementales avec la même architecture. Et aujourd'hui, à l'échelle sous-préfectorale également, avec les comités sous-préfectoraux. L'objectif, c'est que pour pouvoir toucher les personnes qui sont les plus vulnérables, on s'appuie sur ces autorités qui connaissent mieux la sociologie des populations et savent donc orienter les actions du gouvernement pour être le plus efficace possible.
Monsieur Arthur Banga, on va parler de la question des jeunes. On va revenir sur cette problématique. Pourquoi est-ce que ce sont les jeunes qui sont la cible de ces groupes, on va dire, terroristes, pour ne pas dire djihadistes? Pourquoi c'est les jeunes qui sont visés?
Il y a plusieurs raisons. La première qui est réelle, qui est fondamentale, c'est que d'abord, c'est un discours de conviction souvent religieuse. Et c'est pour ça qu'il faut en lutter contre la radicalisation, essayer d'avoir les premiers signes de radicalisation. N'oublions pas qu'il y a des gens qui sont séduits par ce discours religieux, donc qui se radicalisent, et d'ailleurs qui se radicalisent progressivement. On le sent pas dans leur milieu. Ça peut même avoir avec une affaire personnelle, familiale, la plus banale du monde, mais qui te radicalise. Même avec une affaire extérieure, il peut regarder la télé, voir par exemple qu'en Israël, aujourd'hui, Israël a bombardé dans Gaza, voilà, et puis à partir de là, lui, il a sa conviction. La deuxième, il peut aussi tomber sous le charme d'un prêcheur. On le dit pour eux parce qu'ils se radicalisent, mais on le voit souvent dans nos foyers, on ne reconnaît plus certains de nos frères, certains de nos sœurs, parce que elles sont tombées sous le charme d'un pasteur, d'un gourou, ça peut tout à fait arriver. À côté, il y a un problème, comme l'a expliqué tout à l'heure M. Herman, il peut y avoir des problèmes sociaux, des problèmes d'absence de l'État ou d'injustice de l'État, effectivement. Quelqu'un a sa moto, pour lui avoir sa moto, ou bien on parlait des dozos tout à l'heure, quelqu'un a son fusil depuis des générations, un matin il sort avec son fusil et il tombe sur quelqu'un, un policier qui dit « t'as pas droit à ce fusil ». Mais lui il est bouleversé. Et quand à côté, il entend quelqu'un qui lui dit « Oui, mais voilà, ce qu'on te disait, ce qu'on t'expliquait, ceux-là, ils sont pas là pour toi, ils sont là pour quelque chose. » Donc, ça séduit. N'oublions pas qu'on a une zone aussi où il peut y avoir des difficultés économiques réelles de certains jeunes qui n'ont pas d'autres revenus, qui vont se retrouver donc sous le charme de ces groupes. Et dans certains pays, c'est pas encore trop le cas en Côte d'Ivoire, ils passent même par des ONG. Le village n'a pas de puits, on vous met un puits. Le village n'a pas d'école, on vous met une école. Le village a une vieille mosquée, on refait une nouvelle mosquée, on envoie cette fois-ci un prêcheur radical. Donc, et souvent, on regarde même, et nous on a fait une étude en 2021, c'était assez frappant. Vous savez, quand on ne connaît pas le nord de la Côte d'Ivoire, on a l'impression que c'est une unité homogène culturelle. Mais vous pouvez avoir dans un village deux familles qui se battent pour, comme on voit, pour du foncier, pour du titre, et ils exploitent ça. Si par malheur tous les cadres de la famille, tous les cadres du village sont d'un côté du village, mais ça suffit pour convertir toute autre partie du village à sa cause. Donc il y a un ensemble de mesures de sociales. Et je dis souvent aux gens, quand vous êtes dans ces zones, quand vous êtes instituteur, vous êtes juge, vous êtes préfet, vous êtes militaire, vous jouez l'État. Je vous donne un exemple. On me vole mes bœufs. Et l'État, et ça par exemple, on l'a bien vu au Burkina, l'État n'arrive pas à retrouver mes bœufs. Et un groupe retrouve mes bœufs, me ramène le volet des bœufs et devant moi lui coupe les mains. Je crois en qui désormais pour ma sécurité? Je préfère croire à celui-là qui a réussi à me ramener mes bœufs, puisque au policier qui non seulement va, j'aime bien cette chanson de Tikenja, je suis allé voir la police, ils ont dit enquête, je suis allé à la gendarmerie, ils ont dit recherche. Et bien, ils m'ont jamais ramené celui qui m'a. Donc en ce moment, ils balancent de l'autre côté. C'est pour ça que l'ensemble des mesures doit être d'abord prioritairement, parce que c'est d'abord un phénomène sécuritaire, doit être des mesures sécuritaires militaires. On a su le faire, on a pu le faire en renforçant notre présence, en mettant en place la zone opérationnelle nord. Je pense qu'on doit progresser un peu dans la mobilité de nos troupes pour leur permettre de se projeter, mais mobilité protégée. C'est pour ça que je pense qu'on doit renforcer en blindés légers, parce que si on n'a pas de blindés, les EI vont emporter facilement nos VLRA, ce qui ne va pas permettre d'être productif, et ce qui ne va pas permettre la confiance de nos hommes. Parce que quand un homme sort et se dit je suis dans un blindé léger, donc j'ai pas peur d'y aller parce que l'EI va peut-être ralentir ma progression, mais va pas m'avoir. Il a plus ce moral. Mais s'il va avec un VLRA classique qui n'est pas protégé,
Lui-même, il a peur quand il va en mission. C'est pour ça qu'il faut renforcer les équipements, renforcer la présence. Mais du point de l'État, renforcer aussi la formation de ceux qui représentent l'État dans ces lieux-là. Leur faire comprendre qu'ils ont une mission très importante quand ils arrivent dans ces zones. Et finalement, ce qu'on fait, qui est très bien avec nos partenaires, c'est renforcer les questions sociales, comme le ministère de la Jeunesse essaie de le faire, et la présence de l'État, accompagner ces jeunes-là dans leur progression. Et même, ça peut être des modèles, des exemples. Si c'est réussi dans le Nord, on peut le réussir dans d'autres parties de notre pays. Voilà, et donc ce sont des choses intéressantes. C'est pour ça que moi, je parle d'accalmie, mais on doit être vigilant. J'insiste sur la vigilance, et c'est pour ça qu'on doit continuer de former, continuer d'appuyer ces bons de projets, continuer à renforcer les capacités de nos troupes pour pouvoir répondre justement à ces défis, parce qu'il faut être vigilant. On l'a dit, quand on se met d'un enjeu régional, nos voisins ne sont pas au meilleur de leur forme d'État. Et donc, ça fait qu'on peut avoir des situations. Il faut compter aujourd'hui avec tous ces réfugiés qui arrivent. Et en sachant que les groupes savent très bien qu'il y a des réfugiés qui viennent, ils peuvent s'infiltrer pour pouvoir capter du renseignement.
Alors, monsieur Zounon, Jean-Paul, suit la problématique, parce que vous avez dit, cette analyse de la situation sécuritaire, de protection des biens et des personnes, il ne faut pas l'analyser sur le seuil des frontières, il faut aller au-delà. Alors, quelle solution, alors, à partir de ce moment-là, on peut faire si on doit aller au-delà? Quelles sont des solutions qu'on peut apporter pour pouvoir freiner, et pour enrayer le phénomène? Quelles solutions?
J'étais en train de penser que les cycles de violence extérieure auraient pu ou pourraient ou vont contaminer les cycles de violence intérieure. On l'a vu déjà à l'époque sur le Libéria. Les cycles de violence libériens, ça a mis le temps que ça a mis, mais ils ont contaminé la Côte d'Ivoire. J'étais en train de dire, faut pas voir sous le seul prisme de la Côte d'Ivoire. C'est des solutions multi-pays qu'il faut. Donc, ce sont des solutions multidimensionnelles déjà. Il y a la problématique militaire et la problématique des communautés, les problématiques sociales et tout ça. Et il n'y a pas que ça dans tous les cas. Ouais. Donc il faut influer sur les différents axes. Il y a une offre, il y a une demande.
Ah, mais on va être concret. Je vais dire aujourd'hui, avec la situation du Burkina, de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire peut faire avec le Burkina pour pouvoir gérer ça? Comment cette coopération va être? C'est des avions qu'on va envoyer? C'est des soldats qu'on va envoyer? Comment ça peut se passer?
Déjà, avant de parler de... Quand vous parlez de soldats, d'avions qu'on envoie, vous parlez du tout militaire. Si vous voulez parler du tout militaire, il faut mutualiser les forces avec un concept d'opération commun. D'accord. Voilà ce que je peux dire.
Mutualisation des forces.
Absolument. Il n'y a pas d'autre solution.
Et les actions de développement, parce que c'est le nord de la Côte d'Ivoire, c'est le sud quand même du Burkina.
Exactement.
Et du Mali.
C'est ça. Il y a deux axes. Il y a l'axe purement militaire et l'autre axe, c'est l'axe de cohésion sociale. L'axe de cohésion sociale, lui-même, cet axe, il faut travailler avec des solutions multi-pays, que ce soit au niveau des ALPC, que ce soit au niveau du marquage, du traçage des armes. Ce que M. Nkoué a expliqué ici, il faut le faire en même temps de l'autre côté de la frontière. En même temps. C'est des solutions multi-pays, comme les solutions... Ça a déjà été éprouvé au niveau du DDR, au niveau de Ras Alao. Ces solutions ont été éprouvées déjà, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Congo ou un peu partout.
Merci beaucoup. Monsieur le colonel-major Wassena Hubert, vous aviez parlé d'une dimension d'implication des femmes dans le cadre donc de vos tournées de sensibilisation que vous avez eu à faire, parce que dans le cadre donc de la collaboration armée et population civile, vous avez parlé d'une collaboration avec les femmes. Pourquoi spécifiquement cette collaboration avec les femmes, la gente féminine, et comment ça va se décliner pour atteindre quel résultat? Qu'est-ce que l'armée cherche en collaborant, en s'intéressant à cette catégorie de la population? Qu'est-ce que les femmes peuvent apporter?
Bien, les femmes peuvent apporter beaucoup de choses, elles apportent beaucoup de choses. C'est d'abord elles qui assurent les premiers pas de l'éducation. Donc, à partir de là, elles ont un rôle fondamental à jouer dans notre éducation. Et puis, tous, autant que nous sommes ici, quand notre mère nous parle, je pense qu'on l'écoute. Donc, à partir de ce moment, ceux qui sont radicalisés, c'est des enfants, c'est des êtres humains qui sont radicalisés, ils ont des parents. Alors, si on réussit à amener chaque parent à assumer sa responsabilité, alors on aura avancé d'un pas. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que tous les parents ont des missionner. Donc on a besoin aujourd'hui des femmes pour recadrer un peu l'éducation et puis parler. Prenons une famille. Vous avez des enfants. Je suis sûr que votre épouse sait plus de choses sur vos enfants que vous le père. Donc il faut travailler avec les femmes.
Sur la question de Herman Nukwe, vous voulez ajouter quelque chose?
C'est extrêmement important. Hein. Mm-hmm. L'ensemble de nos programmes comptabilise sur les questions de genre, donc avec les femmes, au moins 30% de femmes. Et je vais prendre un cas très, je vais dire, atypique, c'est celui de la mise en activité, dans le cas de l'entretien des ouvrages, ce qu'on appelle les TIMO. On a noté entre 60 et 80% de femmes qui participent à ces travaux. Alors, de l'entretien qu'on a eu avec certaines d'entre elles, les 35 000 que vous leur donnez à la fin du mois, ça contribue directement dans l'économie du ménage. Alors qu'on sait bien. Mais si le monsieur, il ne mène plus son activité, si la famille n'a plus de revenus directs, mais ils ont l'oreille qui peut être accessible à tout ça. Donc toucher les femmes également, c'est aussi, comme il a dit, développer une nouvelle forme d'éducation. La femme, ce sont les enfants, mais les femmes mises ensemble, et lorsqu'on prend les associations villageoises d'épargne et de crédit, vous allez compter là aussi pratiquement 70% de femmes à l'intérieur de ces groupements. L'idée, c'est d'arriver maintenant à développer une économie locale, rurale, mais les hommes regardent aussi dans la caisse des associations lorsque ça commence à financer des activités génératrices de revenus. Donc, la compréhension de la sociologie de ces zones. C'est vrai, les femmes ne prennent pas la parole en public, mais en arrière-plan, ces femmes jouent un rôle extrêmement important dans l'équilibre social.
D'accord, on va donner le micro à Arthur Bangan.
Parler des femmes et des groupes terroristes. Mm-hmm. Les femmes sont des actrices, et même pour ces groupes-là. Elles sont fournisseuses de renseignements, elles sont fournisseuses de logistique, et elles sont même meilleures recruteuses, si je peux m'exprimer comme ça, on parle, mais n'oublions pas que les femmes peuvent être de l'autre côté. Et si une femme explique à son fils justement le besoin ou la nécessité de rejoindre des groupes, c'est la femme qui sait le premier quand son fils se radicalise ou quand son fils a rejoint un groupe. Donc c'est elle qui peut tirer des informations. Donc du coup, si nous on néglige les femmes dans notre stratégie antiterroriste, je vous garantis que les groupes terroristes, eux, font des femmes un pilier de leur stratégie. Que ce soit dans l'opérationnel, dans le recrutement ou dans le renseignement, elles ont une place importante dans leur stratégie.
Merci beaucoup pour cette précision. Victorien Taillé.
Je voulais revenir un peu sur la question que vous avez posée sur la solution. Quelle solution proposer pour freiner l'expansion du terrorisme et de l'extrémisme violent au niveau du Nord? Mm-hmm. Nous qui sommes de la société civile, nous disons que l'une des premières solutions, c'est de travailler sur le capital humain. Le capital humain, notamment au sein des communautés. Apporter une transformation au sein des communautés. Cette transformation, c'est bien les communautés, c'est également aussi les femmes. Les femmes en partie, comme vous venez de le dire, que les femmes sont meilleures dans leur enseignement. Elles sont meilleures dans leur enseignement, mais également les femmes sont aussi ces personnes-là même qui sont aussi éveillées, éveillées, mais également qui sont les premiers dans les différentes localités. Dans les localités, les matins, c'est les femmes qui sont toujours debout, les 4 heures du matin, qui parcourent la zone, qui voient beaucoup plus. Donc pour nous, le capital humain, travailler sur le capital humain et sur les communautés en prenant en compte les femmes, c'est déjà une première solution. Les transformer à travers les actions de formation, d'éducation, d'information, apporter les informations. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des EI, les engins explosifs improvisés, il faut pouvoir donner cette éducation aux femmes. Elles se réveillent tôt et par moments, elles peuvent tomber sur des... Bon, on a eu beaucoup de cours de la part de notre partenaire institutionnel national, la Comnatal PC, des cours sur les EI qui montrent, c'est vrai que nous on en fait, mais avec eux, c'est encore de l'expertise, qui montrent que vous pouvez avoir des bidons d'eau enfourés dans le sol, mais derrière... C'est des dynamiques qui sont remplies d'explosifs. Et la femme, en partant sur son chemin des champs, elle peut voir ça, elle peut penser que c'est un bidon, elle va le toucher, le coup peut partir. Même les véhicules peuvent passer, les motos. Donc, il faut pouvoir donner cette éducation à cette population, cette communauté. C'est pour ça qu'on parle de nous, la transformation du capital humain. Mais également, nous parlons comme solution la loi. qui est notre boussole, les instruments juridiques, notamment cette loi qui doit sortir, harmonisée avec les différents instruments juridiques internationaux ratifiés par la Côte d'Ivoire sur les questions de contrôle des armes. Et cette nouvelle loi, nous l'attendons beaucoup. C'est encore le lieu de toujours plaider pour que l'État de Côte d'Ivoire fasse un pas en avant pour que nous puissions nous sortir cette loi qui va aussi encadrer beaucoup de choses. Tout à l'heure, le président de la Comnat parlait de l'enregistrement des fabricants locaux ou encore artisanaux d'armes légères de petit calibre. Dans cette loi, il y a tout un encadrement de ces fabricants. Même la question des doseaux peut être traitée au sein de cette loi, parce que ça va également nous permettre, selon ce qu'on sait et on apprend aux côtés de nos partenaires, nous permettre d'enregistrer les civils et pourquoi pas marquer les armes des civils, c'est le mot, les armes des civils, de telle sorte que ces armes puissent être contrôlées. Comme l'autre solution qu'on voulait apporter, les uns et les autres, surtout l'ESPN nous a dit qu'il faudrait avoir une solution en synergie avec les autres pays. Mm-hmm. Nous parlons, nous, société civile, on parle plus de partage d'expérience. Pas plus tard que cette semaine, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le Conseil national de sécurité, était réuni à Korogo avec les pays tels que le Mali, le Burkina, les chefs traditionnels de ces pays. Et pour nous, pour pouvoir parler des questions des réfugiés, d'extrémistes violents, de porosité des frontières. Donc, c'est ce genre d'action qu'il faut multiplier de telle sorte qu'on soit enseigné par les autres, mais aussi qu'on ait cette culture de pouvoir avoir cette réflexe dans la résilience qu'on peut développer au sein de nos communautés, mais pour nous-mêmes, notre État. Donc, voilà un peu quelques solutions. J'étais très intéressé par la question, c'est pour ça que je suis revenu dessus.
Merci beaucoup, voilà. Ntaye, on vous a compris, on a bien compris ce que vous faites. Colonel Kanyi, sur la même lancée, on vous écoute.
En fait, mais concernant moi, j'ai dit, outre les femmes et le développement initié au Nord, il serait important que l'État poursuive sur ce mécanisme-là, à savoir la mise en place des comités civilo-militaires, lesquels sont dirigés par les préfets des régions. Et au sein de ces comités civilo-militaires, vous aviez les forces de défense et de sécurité, les leaders politiques, les jeunes et les femmes. Cela permet un peu la circulation des informations. Si bien qu'au niveau des FDS et les populations, il va y avoir certainement une bonne collaboration qui pourra mettre fin un peu aux implications ou bien aux infiltrations des terroristes.
D'accord. Merci beaucoup. Mon général, alors, vous disiez dans le développement que vous aviez très souvent dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le radicalisme, vous dites que lorsqu'il y a une politique, une bonne politique de contrôle des armes, on arrive à lutter efficacement contre le djihadisme, contre le terrorisme. Alors, expliquez-nous.
Regardez un peu quels moyens les terroristes ont pour mettre en œuvre leurs actions terroristes, si ce ne sont les armes légères ou les armes de petit calibre. Ils n'ont d'autres moyens que ça. Déposséder leurs armes, ils deviennent des personnes comme vous et moi. Et donc, à partir de là, avec quoi ils nous effraient? Donc, une politique qui amène à contrôler ces armes, à faire en sorte qu'elles ne soient pas détournées, à faire en sorte qu'ils n'aient pas accès à ces armes, suffit pour régler à 90% cette question. Et vous voyez, si vous regardez tous les slogans, tous les emblèmes, tous les terroristes, vous voyez, c'est avec toujours les armes de petit calibre. Même pas les armes légères, parce que c'est juste les armes de petit calibre. Les EEI, tout ça, ce sont les armes de petit calibre. Donc, le moyen principal qu'ils ont, et c'est parce que les armes ne sont pas suffisamment bien gérées, contrôlées, qu'ils ont accès à elles, et après, ils peuvent assouvir leur sale besogne. Parce que je parle essentiellement des armes légères de petit calibre, parce que rarement vous avez vu des terroristes opérer avec des navires de guerre ou bien avec des chars, etc. Ce sont les armes de petit calibre, c'est les Kalachnikov et autres. Donc, il suffit d'une politique de contrôle sûre, d'une politique de gestion sûre et sécurisée de ces armes pour régler le problème déjà de ce terrorisme. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser les autres prendre solution, non. Mais je veux dire que le contrôle des armes résoudrait le problème, en tout cas dans sa grande majorité.
Monsieur Dukoué Herman, sur cette problématique de la lutte contre le terrorisme via les jeunes, comment on peut protéger les jeunes durablement contre ce phénomène? Vous êtes dans l'investissement socio-économique dans la région du Nord à travers donc votre ministère. comment est-ce qu'on peut s'assurer que ce qui est fait est fait? Parce qu'on a entendu aussi dire que des jeunes ont abandonné. Mais qu'est-ce qui explique qu'il y a des abandons?
Oui, alors il y a plusieurs raisons. Hein. Déjà parce qu'il a trouvé mieux.
Ah.
Oui, mais vous le mettez par exemple en stage, ou bien vous le mettez en timo, et puis d'ici là, il a le permis de conduire, une mine lui offre une opportunité. Il ira vers cette opportunité. Mmh. Alors vous prenez par exemple, vous savez que la zone, c'est une zone très agricole. Vous commencez les timos, malheureusement, ça coïncide avec la période culturelle. Donc la famille a besoin de ses bras valides aussi pour aller s'aimer. Donc toutes ces choses peuvent expliquer, mais le taux d'abandon est quand même assez réduit. Je voudrais insister sur deux points. Le premier point, il faut comprendre que l'intervention dans ces zones nécessite une bonne compréhension de la sociologie de ces populations pour être efficace. Voici pourquoi on s'appuie sur les autorités locales qui connaissent les jeunes, qui connaissent les populations. Et il y a une spécificité de la Côte d'Ivoire. Vous savez, je ne suis pas certain, hein, les Ivoiriens ont vécu suffisamment de crises aujourd'hui pour que le sentiment de cohésion sociale, la résolution des problèmes avec des solutions alternatives, vous avez parlé des questions de tradition, la valorisation des cultures. Voici pourquoi, par exemple, dans le service national jeune qu'on met en œuvre depuis maintenant quelques années, on enseigne aux jeunes les valeurs traditionnelles, la manière de régler des conflits autrement que par des armes. Mais mettre l'accent sur le civisme, la formation sur le civisme, les valeurs que les jeunes doivent développer. Donc nous, on ne fait pas que donner de l'argent pour financer des projets, mais il y a cet aspect également de sensibilisation pour que les jeunes soient les meilleurs instruments pour faire barrière contre le terrorisme. Et le dernier élément sur lequel je veux aussi fortement insister, c'est que l'intervention est dans la durée. Ce qu'il faut faire, oui, c'est dans la durée. C'est véritablement d'arriver à développer des économies locales. Voici pourquoi le ministère a signé avec l'ensemble des régions, et spécifiquement ces 6 régions, des conventions de maîtrise d'ouvrage déléguées pour que localement, il y ait une économie. Et cette économie-là profite aux populations.
Alors, je vais vous poser une question que souvent les gens se la posent, hein, tout le monde. Pourquoi tant d'investissements au Nord? Pourquoi la zone Nord?
Il n'y a pas que le Nord, justement, et le PSGouv 2. Le PSGouv 2 a 5 axes. Les 5 axes, il y a l'axe 1 qui, lui, est consacré au Nord. Mais tous les autres axes, de l'axe 2 jusqu'à l'axe 5, on a l'axe 4 qui est insertion professionnelle sur tout le territoire national. Donc, on a voulu régler déjà une question d'équilibre. Lorsqu'on est sorti de la crise de 2011, mais il y a eu le programme spécial à l'Ouest, oui, où on a investi durablement pour permettre à ces populations aussi de profiter du développement. Donc, il n'y a pas que le Nord, c'est tout le territoire ivoirien qui est pris en compte par les programmes d'insertion, mais spécifiquement, le Nord, c'est face donc à la vulnérabilité et à la fragilité de ces populations pour faire barrière au terrorisme violent.
Monsieur le colonel Dokani.
Comme on le dit toujours, hein, soit l'oisiveté étant la mère des vices, moi je pense qu'il faut investir au Nord pour que les jeunes du Nord tournent le dos au terrorisme et au radicalisme. Donc je crois que c'est l'une des raisons pour laquelle l'État investit au Nord. Et pour cela, je pense que l'État mérite au moins un carton vert pour tout ce travail qui s'est fait au Nord. Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette précision. Le temps qui nous est imparti est arrivé à fin. Qu'est-ce qu'on doit retenir comme solution par rapport donc au radicalisme des jeunes? Jean-Paul Zounon, expert en stratégie de sécurité et de défense.
Je vous ai parlé de mutualisation. Je vous ai parlé de coopération.
Coopération.
Et multi-pays. Mmh. Et ces solutions sont des solutions multidimensionnelles aussi. Maintenant, ce qu'il faut faire pour lutter contre la prédation par rapport aux jeunes et tout ça, c'est ce que vous avez commencé à faire. Réunir les experts pour que chacun s'imprègne de la technicité de l'autre et du langage de l'autre pour qu'on puisse en parler et trouver des réponses. C'est ce que vous avez commencé à faire. C'est ce que je crois, hein.
Merci à vous, chers invités, chers experts, qui avez fait donc le déplacement pour nous entretenir sur notre thématique du jour, sur la question de la problématique de la radicalisation des jeunes, qui sont donc des proies faciles au terrorisme. Quelle solution? Je pense que vous nous avez donné beaucoup de pistes de réflexion. Il s'agissait non seulement d'investir, d'apporter des réponses militaires, mais également des réponses de développement et d'investissement dans ces zones, les renseignements, et vous avez demandé qu'il y ait une nette collaboration entre les armées et les civils. Également, vous avez insisté sur la nécessité d'une coopération au-delà des frontières des pays pour pouvoir faire face à cette situation. Merci beaucoup. C'est la fin donc de ce débat démocratie en progrès. Je rappelle donc que j'étais donc en compagnie du général Yukoyi Leon, qui est le président donc de la Comnat ALPC. J'étais également en compagnie de M. Nukoui Herman du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique. J'étais en compagnie donc de Dr Arthur Banga, enseignant-chercheur au département d'histoire de l'Université Félix Houphouët-Boigny. J'étais en compagnie de M. Jean-Paul Zounon, expert en stratégie de sécurité et de défense. Également, j'étais en compagnie du colonel-major à la retraite Wassena Hubert, membre de l'ONG la CADA, la Coordination africaine des droits de l'homme pour les armées. J'étais également en compagnie du colonel Dokani, colonel à la retraite, membre de la CADA, de M. Victorien Taillé, président du RASALARO, le réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest. À ce micro, Ben Diakité, technique, Antoine Kouassi, merci de nous avoir suivis. Agréable semaine à vous. Merci beaucoup.
Ce programme a été réalisé en partenariat avec l'ambassade des États-Unis.
Les grands débats. Radio de la paix.